Les monologues du côlon, une série de podcasts de Pierre Fabre Oncologie qui rend hommage à celles et ceux qui s'impliquent aux côtés des patients pour combattre le cancer colorectal. Le cancer colorectal est le troisième type de cancer le plus fréquent chez l'homme et le deuxième chez la femme. En 2020, on estime qu'environ 1,9 million de nouveaux cas ont été diagnostiqués dans le monde et plus de 43 000 en France. La pandémie de Covid-19 a complexifié la prise en charge de ces patients. Les monologues du côlon proposent un éclairage pluridisciplinaire sur cette situation inédite. Ce premier épisode recueille le témoignage du docteur Thibaut Mazard, gastro-entérologue et hépatologue à l'Institut régional du cancer de Montpellier.
Bonjour, je m'appelle Thibaut Mazard, je suis oncologue médical, je travaille à l'ICM Val d'Aurel et je suis particulièrement concerné par les patients atteints de cancer digestif et ORL que je prends en charge au quotidien. Quand cette épidémie de Covid-19 a débuté, c'est vrai que je pense qu'il y a d'abord eu une phase un petit peu d'incrédulité, on entendait parler de ce qui se passait dans d'autres pays, d'abord loin et puis ensuite plus proche. Et c'est vrai qu'au début, on se disait, ben voilà, est-ce que cette épidémie va arriver jusqu'en France? Puis je me rappelle très bien qu'il y a eu un basculement, vraiment du jour au lendemain. On nous a demandé finalement de complètement modifier notre activité médicale. On a pris cette épidémie un peu comme un raz-de-marée, comme un peu une vague en pleine tête. Et j'avoue que ça a été très, très déstabilisant les premiers temps. On avait aussi des données qui nous disaient que les patients atteints de cancer allaient faire les formes finalement les plus graves de Covid et qu'il fallait donc prendre un certain nombre de mesures pour les protéger. Voilà, il y a eu quelques semaines vraiment de flottement où on ne savait pas où on allait aller. Il a fallu aussi un peu réfléchir à pour quel patient il fallait continuer le traitement, pour quel autre patient il fallait peut-être faire une pause et pour justement ne pas les exposer au risque du virus. C'est ça qui a été très difficile les premiers temps. On a su rebondir assez vite. Après quelques semaines, on s'est rendu compte que finalement, cette épidémie, certes, était là, n'était pas forcément plus grave pour les patients atteints de cancer et qu'il fallait peut-être faire un peu machine arrière, essayer de reprendre une activité plus normale. C'est ce qu'on s'est attelé à faire. Au moment donc du premier confinement, donc la première chose qu'on nous a demandé finalement, c'est de limiter la venue des patients sur le centre pour limiter leur risque d'attraper le virus. Ce qu'on a constaté aussi, c'est que finalement toute l'activité de soins primaires, les consultations chez les médecins traitants, les activités de dépistage, les activités de diagnostic ont été suspendues et on a maintenant clairement des chiffres qui montrent qu'on a une diminution très significative de toutes ces étapes de la prise en charge des patients atteints de cancer. Quelques mois après ce premier confinement, on a eu envie de mesurer de manière plus objective les conséquences de toutes ces mesures. Il y a beaucoup de choses qui ont été modélisées ou théorisées sur les conséquences du Covid sur la prise en charge des patients atteints de cancer, notamment digestifs. Mais finalement, on avait peu de choses concrètes pour mesurer l'impact de cette épidémie sur les patients. Avec mon confrère chercheur Alain Thierry, nous avons utilisé des données issues d'une étude que nous menions depuis plusieurs années qui s'appelle Panierinox et qui analyse entre autres un marqueur circulant qui s'appelle l'ADN circulant qui peut être largué par les tumeurs donc dans le sang. Et mon confrère donc a fait le constat que cette quantité d'ADN circulant était beaucoup plus augmentée chez les patients que nous avons inclus après le premier confinement que ceux que nous avions inclus avant le confinement. Et pour en être complètement certain, nous avons comparé de manière statistique donc 40 patients inclus avant et 40 patients inclus après. Et cette différence est significativement plus élevée, quasiment 7 fois plus élevée qu'avant donc le premier confinement. Or, on sait que cette quantité est directement corrélée à la charge tumorale et surtout peut être pronostique. Et donc, des patients qui potentiellement, donc, à cause du retard diagnostique, pourraient donc avoir une moins bonne survie que ceux que nous traitions avant cette épidémie. Et donc, ce qu'on craint, c'est que finalement, le confinement est abouti à des retards diagnostiques et donc se retrouve avec des patients qui arrivent avec des maladies beaucoup plus étendues, beaucoup plus graves et qui risquent d'avoir finalement une survie plus courte. Donc ces résultats nous ont permis d'objectiver de manière concrète les conséquences des mesures prises pendant le confinement. Ce qu'on souhaite faire également, c'est voir aussi l'impact des confinements qui ont suivi. Et puis, on a essayé de communiquer ces résultats de manière la plus large possible pour sensibiliser d'une part les patients, mais aussi les médecins de premier recours à reprendre rapidement toutes les activités qui se font en amont de nos interventions, en l'occurrence le dépistage, encourager les patients à aller consulter leur médecin en cas de symptômes anormaux. Et ce qui nous reste à faire maintenant, c'est regarder ce que sont devenus ces patients pour lesquels on a trouvé des taux d'ADN importants et voir si notre hypothèse en termes de pronostic se confirme. Après cette phase de sidération qui a suivi cette première vague de Covid-19, l'ensemble de l'équipe soignante de mon centre s'est mobilisée pour essayer de trouver des solutions et s'adapter finalement à la situation. On a mis en place une cellule multidisciplinaire dédiée au Covid, avec l'idée finalement de suivre en temps réel la situation, de nous informer de l'évolution de la situation, de réfléchir à des stratégies de gestion en lien avec le risque lié à ce virus, aussi un certain nombre d'actions pour optimiser la prise en charge des patients. Je peux citer la création de créneaux spécifiques, que ce soit en radiothérapie ou en radiologie, pour accueillir les patients atteints de Covid et donc qu'ils ne soient pas exclus du système de soins à cause de ça. Cette crise a été l'occasion de développer la téléconsultation, toujours dans un but de maintenir le lien avec le patient, parce que la crainte des patients qui étaient en cours de traitement, c'était finalement qu'ils n'aient plus de contact avec nous, ne venaient plus faire leur traitement, ne venaient plus faire leurs examens. Donc, l'outil de téléconsultation a été d'une grande aide. Il y a aussi la volonté du centre d'essayer de maintenir le plus possible toutes les activités de chirurgie, notamment en transformant des lits de soins continus en lits de réanimation pour pouvoir accueillir justement les patients qui relèvent de cette prise en charge, notamment après des chirurgies digestives importantes. Je parle de ces exemples dans notre centre, mais je pense que l'ensemble de la communauté soignante a réagi très vite. Et moi, je tiens à saluer cette capacité justement d'adaptation, cette résilience. Et je crois qu'aussi, grâce à ça, on a quand même peut-être limité les conséquences délétères de cette épidémie. On a aussi maintenant le vaccin qui nous protège à la fois en tant que soignant et qui protège aussi les patients. Et une grande majorité des patients ont adhéré à ce programme de vaccination. Je les en félicite. Je pense que c'est un outil qui a indéniablement permis de passer cette crise. Aujourd'hui, la situation est en train de s'améliorer. Tous les indicateurs épidémiologiques vont vers le mieux. Moi, c'est vrai que j'ai l'impression que nous avons repris une activité quasiment normale. Il y a eu encore, au mois de janvier, un plan blanc sur la région de Montpellier qui a justifié quelques décalages de chirurgie pour des pathologies lourdes comme les cancers de l'œsophage. Cela n'a duré que très, très peu de temps et on a maintenant repris une activité quasiment normale. À l'échelle nationale, j'ai revu récemment quelques données de l'INCa qui disent quand même que, par exemple, en termes d'exérèse de cancer colorectal, il y a encore un retard qui n'a pas été complètement rattrapé par l'ensemble des structures médicales. Donc, je pense qu'il y a encore un petit travail pour, en effet, rattraper ce temps perdu. Mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. S'il n'y a pas de nouvelles vagues, nous pourrions espérer reprendre un fonctionnement complètement normal, je pense, dans les prochaines semaines. Le travail vient renforcer l'importance majeure en cancérologie, d'abord de la prévention. On sait qu'environ 40% des cancers pourraient être empêchés par des actions de prévention. Si on prend l'exemple du cancer colorectal, on sait que si on lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la sédentarité. Si on favorise une alimentation plus riche en fibres, on peut diminuer le risque de développer un cancer colorectal. Et puis aussi, il y a toute la partie dépistage. Hein. Le cancer colorectal fait l'objet d'un dépistage organisé, mais qui, pour l'instant, en France, est très peu suivi. Hein. 29% de participation en France, alors que si on veut qu'il y ait un véritable impact sur l'incidence des cancers, il faudrait au moins 45% des patients y participent. Ce dépistage a été maintenant plus simple. Hein. C'est un test immunologique, c'est un prélèvement de sel minime. Et que donc, il faut essayer d'augmenter ces chiffres. L'INCa aussi essaie de faciliter cela en permettant prochainement aux pharmaciens de délivrer le kit de dépistage. Il va être aussi possible de commander l'hémoculte en ligne. Donc, j'espère que ces nouvelles mesures vont permettre d'augmenter la participation des gens à ces campagnes de dépistage. Et j'espère que grâce à ça, on accélérera la diminution de la mortalité de ce cancer.
S'il est diagnostiqué dans une forme précoce, le cancer colorectal peut d'autant mieux être soigné. À partir de 50 ans, son dépistage est proposé à toutes et tous gratuitement. N'hésitez pas, parlez-en à votre médecin et faites-vous dépister. Pierre Fabre, laboratoire français en oncologie de précision, soutient les professionnels de santé dans la lutte contre le cancer colorectal.